Donc on va parler un peu de l'héritage et du but du croyant. Et s'il y a un deuxième titre qu'on devrait donner, c'est « Nous sommes l'épouse de Christ ». Parce que l'image qu'on va étudier, le passage qu'on va étudier justement, c'est une image, une allégorie que le prophète Ézéchiel utilise pour parler donc là d'Israël, qui était donc le peuple de Dieu, donc le prophète va reprendre Israël parce qu'ils sont pas dans une bonne disposition du tout, et là Dieu va lui rappeler à Israël d'où il l'a sorti et qu'est-ce qu'il a fait pour Israël. Et donc on sait que Israël représente, on peut s'identifier à Israël en tant que croyant. Dieu parle souvent de la relation conjugale, le mariage entre Dieu et Israël, Dieu, l'Église, Dieu, le croyant. Et alors que je sais cette attitude-là, je trouvais vraiment, peut-être la première fois, je trouvais que c'était tellement fort que Dieu utilise cette relation-là. C'est lui qui a institué, c'est vrai, le mariage. Mais qu'il utilise donc cette relation vis-à-vis du croyant, vis-à-vis de son peuple, de son église. Je trouve que c'est vraiment un engagement incroyable de la part de Dieu, quoi. Je sais pas, moi, il aurait pu dire autre chose. J'ai pas trop d'idées, mais ça, c'est vraiment haut, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de relation plus grande, plus intime que celle du mariage, quoi. Alors c'est un passage qui est assez cru en même temps et très fort et en même temps ça montre bien notre état en tant qu'être humain et puis ce que Dieu a fait pour nous. Donc on va le voir dans Ézéchiel chapitre 16 versets 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Éthiopienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin et de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on va pas pouvoir expliquer chaque verset de ce passage-là, hein, et me posez pas trop de questions. Non, c'est vrai parce qu'il y a donc ce passage c'est vraiment une image de toute l'histoire d'Israël. Donc j'ai pas étudié en détail chaque étape, surtout au début lorsqu'en fait Israël est en fait délaissé tout ce qu'elle a pu traverser. Mais on va essayer de voir les principes qui s'en dégagent. Donc la première partie, on voit que donc Jérusalem, bon Israël, le croyant, on peut dire, est abandonné, jeté dans un champ. Et il donne cette illustration-là parce que c'est quelque chose qui se passait à l'époque. C'est surtout les filles qui étaient abandonnées comme ça dans les champs, comme ça peut se passer encore dans des pays même aujourd'hui. Et donc Israël est comparé à cet enfant qui est abandonné dans un champ, livré à toutes aux voleurs et puis à toutes les difficultés de la vie, quoi. Donc c'est vrai que quand on lit ça, c'est assez fort, quoi. On voit qu'elle n'a pas eu elle n'a pas eu d'égard de la part de quiconque. Elle n'a pas reçu de soins et tout ça. Et des fois qu'on peut s'identifier avec ça. Enfin, chacun à son niveau, ça peut être du début jusqu'à certaines périodes dans nos vies où on voit qu'on est abandonné. Ça peut être très tôt dans la vie, ça peut être plus tard à des moments où difficiles qu'on peut traverser. Et même quand on traverse pas des choses horribles dans la vie, spirituellement, chaque être humain se sent abandonné parce qu'en fait il y a cette séparation d'avec Dieu. Et donc toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ sont dans cet état-là, abandonnées comme ça, comme des orphelins. Et je connais une histoire d'une jeune fille qui avait été pas abandonnée entièrement, mais qui était orpheline, donc de père et de mère, qui avait été élevée par des membres de famille. Et elle n'avait pas manqué de choses matérielles, elle avait reçu l'amour de la famille qui restait. Mais en tant que jeune femme, elle disait qu'elle doutait tout le temps de l'amour des gens. Le fait de ne pas avoir eu un père, une mère, même si elle avait eu l'amour d'autres membres de famille, il y avait vraiment ce manque qui était vraiment évident pour elle. Et ça l'avait bien sûr amenée à Dieu. Et bon, moi j'ai mes parents, donc je sais pas ce que elle pouvait ressentir, mais elle, c'était quelque chose de très fort, ce sentiment d'être abandonnée peut-être encore une fois par des gens. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin tellement de marques d'affection, d'amour et tout ça. Mais chacun a un autre niveau. On peut prospérer dans la vie, arriver même à une maturité, parce qu'on voit que, en parlant d'Israël, de cette femme, qu'elle a grandi, ses cheveux ont poussé, elle était d'une beauté parfaite. Et les gens peuvent arriver dans la vie, avoir une situation, avoir une famille et tout ça. Mais spirituellement, ils restent abandonnés. Et seul, quoi, parce qu'ils sont sans Dieu, séparés de Dieu. Et d'avoir cette image-là, moi, ça m'aide aussi à être motivée pour annoncer l'Évangile, parce que c'est comme ça que Dieu voit les gens. C'est pas parce qu'on voit des gens qui réussissent, qui ont la gloire, qui ont tout ce que ce monde peut offrir, qu'ils sont comblés. En fait, ils sont abandonnés, ils sont orphelins, sans Dieu. Il faut vraiment avoir cette perspective que Dieu a sur les gens pour pouvoir continuer à évangéliser, continuer à prier. Parce que sinon, si on regarde que par l'apparence, ben on peut se dire, bon, ben les gens, ils ont ce qu'ils font. Enfin, moi, peut-être j'avais besoin de Dieu parce que je suis faible et tout ça, puis les autres, non. Mais non, c'est pas du tout ça, quoi. Et puis, de toute manière, on voit pas du tout l'intérieur des cœurs des gens, quoi. On a d'autres exemples, comme... Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais moi, c'est toujours celui qui vient. C'est Marilyn Monroe, la gloire et tout ça. Bon, on savait que c'était une femme qui avait subi beaucoup de choses quand elle était enfant. Et elle a eu la gloire, mais comment est-ce qu'elle est morte? Enfin, c'était terrible, quoi. Je crois que Pasteur Stevens avait dit qu'elle avait appelé un ami juste avant de se suicider. Et en fait, la personne lui a dit, mais t'es rien pour nous. Quoi. Enfin, elle avait même pas d'amis, quoi. Les gens avaient profité d'elle et tout, et elle avait jamais connu vraiment le véritable amour, quoi. Et tant de gens comme ça qui paraissent avoir tout, mais en fait, c'est Dieu voit les cœurs, et sans Dieu, c'est une vérité, c'est que les gens sont abandonnés, orphelins, et ils sont dans leur sang, ils sont dans leur souillure, et ils sont pas, ils n'ont pas le pardon des péchés, tout ça. Donc, cette séparation est due au fait que nous soyons pécheurs. Et les passages qui parlent de cela, c'est dans Psaume 51, verset 7, qui dit j'ai été conçu dans l'iniquité, je suis pécheur dès ma naissance. Job 25 aussi, 4 à 6, peut-être qu'on va lire celui-là. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Et donc, dans ces passages-là, on voit que c'est dès la naissance, c'est par nature qu'on est pécheur. On n'est pas pécheur par les actes. Ça s'est révélé par les actes, mais c'est la nature de l'être humain. Et dans Jérémie 17, 9, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 13, 23 dit aussi « Est-ce qu'un léopard peut-il changer sa peau? Est-ce qu'il peut enlever les taches qu'il a sur sa peau? De la même manière, vous, c'est votre nature même de pécher. » Donc on a hérité de cette nature. Et ce qui fait qu'on est séparés de Dieu. Dans Éphésiens aussi 2, verset 3, et puis aussi au verset 12, je crois, qui est dit que nous étions étrangers de Dieu et nous n'avions pas de citoyenneté vis-à-vis de Dieu. Donc on était vraiment éloignés de Dieu. Donc ça, c'est l'état de l'homme devant Dieu avant que Dieu fasse quelque chose. Et ce principe-là, donc, est vraiment important aussi à comprendre et à se rappeler dans l'éducation des enfants. Un enfant ne devient pas un pécheur au contact de la société, il ne devient pas mauvais parce qu'il est mal influencé, toutes ces choses-là. Il est pécheur dès la naissance, ce qui veut dire qu'en même temps, c'est une créature merveilleuse que Dieu confie aux parents. Mais en même temps, il faut bien garder à l'esprit que ce petit être, il va avoir les mêmes problèmes que vous-même. Problème de se soumettre, il va manifester son état de pécheur très tôt sans qu'on lui apprenne quoi que ce soit, par les caprices, par le fait d'affirmer sa volonté contre la volonté des parents. La discipline est vraiment importante pour la vie des enfants. Et la discipline, ça veut dire sauver les pensées. Ça, il faut bien se rappeler cette définition. La discipline, ça permet de sauver les pensées d'un enfant. C'est pas le fait de lui faire courber les chines et qu'il soit. Bien sûr, il faut faire courber la volonté de l'enfant et ce sera pour son bien-être. Et il y a donc un verset qui dit dans Proverbe 22, 15 « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » La verge de la correction l'éloignera de lui. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais que les mamans peuvent dire qu'il y a des moments où les enfants, ils deviennent incontrôlables. Et puis ça commence peut-être par une petite chose, et puis après, c'est comme si il faut qu'il y ait quelque chose pour que ça s'arrête, quoi. Et c'est pour le bien-être de l'enfant qu'on met ses limites, qu'on met ses bornes, et ça va sauver ses pensées. Et la correction, la verge, le bâton parlent de l'autorité. Donc c'est pas le fait de battre de manière incontrôlée qui sera bonne, mais ce sera d'établir l'autorité. C'est que un oui est oui, un non c'est non, et que l'enfant sait qui est l'autorité. Si par exemple la maman a dit quelque chose et puis que l'enfant continue à faire son truc, c'est qu'il n'a pas compris que l'autorité c'était la maman. Mais ça peut être, il faut connaître toute seule coupée des autres. Ça c'était l'humiliation totale. Il pouvait pas le supporter. C'était cette manière-là qu'elle avait de lui montrer que la voie sur laquelle il était engagé n'était pas la bonne et qu'il fallait qu'il revienne dans de meilleures dispositions, quoi. Et pour d'autres, juste peut-être lever la main pour mon autre nièce, même presque pas la toucher, ça la faisait pleurer et ça la remettait dans la bonne voie, quoi. Donc c'est juste important de savoir d'établir justement les limites qu'il faut pour les enfants. Et il faut pas attendre trop longtemps, faut pas se dire ce sont des petits chérubins, des petits anges mignons, on va leur laisser faire ce qu'ils veulent, parce que après le rattrapage sera très dur. Donc ce principe de savoir que comme nous sommes pécheurs, eux aussi le sont, et qu'en même temps Dieu, comment est-ce qu'il fait envers nous? Il nous corrige avec amour toujours, et c'est cette manière-là aussi qui nous permet de suivre la volonté de Dieu. Si j'ai pas appris à plier ma volonté devant mes parents, devant les autorités, comment est-ce que je vais pouvoir faire plier ma volonté devant Dieu? Je veux dire, ça établit une structure aussi pour l'enfant ensuite de rencontrer Dieu, parce qu'il va voir Dieu déjà à travers ses parents, et puis jusqu'au moment où il va comprendre qu'il est pécheur, que Dieu a fait quelque chose pour lui et qu'il se l'approprie. Mais en fait, donc dans les premières années, tout ça, on est en train de, à travers la discipline, de construire toute la structure qui va permettre à l'enfant de recevoir Christ. Mais si on n'a pas établi ça dès le début, dès la plus jeune enfance, après il tombe des nues et puis il va rien comprendre, quoi. Donc c'est vraiment un moyen de grâce que de discipliner comme Dieu le fait pour nous. Et donc Dieu est intervenu auprès d'Israël, et donc Dieu est intervenu pour la race humaine. Alors il faut que je retrouve lesquels. Au verset 8, je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Donc on voit que Dieu là utilise à nouveau cette image du mariage, puisque le fait d'étendre son vêtement, ça voulait dire épouser. Étendre le pan de son vêtement, ça veut dire épouser, ça veut dire aussi elle, une aile. Dans Deutéronome 32, 10 et 11, il y a un très beau passage qui parle de comment Dieu est comme une poule qui couvre ses poussins. Et c'est le même mot. Il l'a trouvée dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entourée, il en a pris soin. Il l'a gardée comme la prunelle de son œil, pareille à l'aigle. Ah non, c'était l'aigle. Qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Donc, ça c'est une autre image de comment Dieu, est-ce qu'il a pris soin de son peuple, et puis comment il prend soin de nous. Et donc, il est parlé aussi qu'il a fait alliance. Alors, dans la Bible, on voit qu'il y a deux sortes d'alliances. Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes. Il y a une alliance conditionnelle, donc si tu fais ça, si tu obéis, tu auras telle bénédiction. Donc ça c'est l'alliance du Sinaï, lorsque Moïse a reçu la loi, il a dit si tu suis les commandements, tu vivras. Donc ça c'était une alliance conditionnelle. Puis après il y a une alliance, des alliances inconditionnelles, et on voit déjà ça dans Genèse chapitre 3 et verset 17. C'est lorsque Dieu s'engage seul vis-à-vis d'Abraham et dit « Je te donnerai ce pays. Va dans ce pays, puis je te le donnerai. » Et ensuite, donc bien sûr, pour nous, pour les gens du Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, on a l'Alliance Nouvelle, qui est une alliance inconditionnelle. Mais bien sûr, il faut répondre, il faut dire oui à l'œuvre de Christ. Mais ensuite, on est sauvé éternellement. Ça, c'est l'alliance nouvelle qu'on trouve dans Hébreux 10, versets 15 à 17. On va pas lire, mais donc c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a payé pour tous les péchés de l'humanité. Il est ressuscité et il dit aux gens maintenant, pour être sauvés, d'accepter ce sacrifice, d'accepter que Dieu, que Jésus-Christ soit mort à leur place, et de demander à Jésus qu'il soit notre sauveur. Donc ça, c'est cette alliance nouvelle. Il y a, la seule condition, c'est de croire. Mais ensuite, en ce qui concerne le salut, c'est quelque chose d'inconditionnel. Dieu nous aime éternellement et on est ses enfants pour toujours. Alors là, apparemment, c'est une alliance inconditionnelle, hein, puisque c'est je fais alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Donc, et donc après, il détaille un peu de ce qu'il a fait. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Et ça représente vraiment ce que Christ a fait à la croix, quoi. Parce que l'eau, ça parle bien sûr de la purification. Et dans Éphésiens 5, 26, il est parlé de que Christ nous a purifiés avec... Comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et aussi dans 1 Jean 5, versets 6 à 8... C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc on sait que lorsque Jésus-Christ était sur la croix et qu'on a transpercé son côté, il y a de l'eau et du sang qui ont coulé. Et le sang de Jésus-Christ nous a purifiés aussi. Et par contre, notre sang à nous, le sang dans lequel était Israël, c'était le sang qui l'a souillé. Et par contre, le sang pur de Jésus-Christ, lui, nous a purifié de tout péché. Et ensuite, il est dit qu'elle a été parfumée ou qu'elle a été oint d'huile. Et donc, ça parle du Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Ainsi, Dieu a fait d'autres choses pour ça. Pour sa bien-aimée, je te donnais des vêtements brodés. Alors, les vêtements brodés, ça rappelle le tapis qu'il y avait dans le sanctuaire, donc le tabernacle, la tente là, qu'il y avait dans le désert. C'était fait d'une étoffe brodée, il y avait des couleurs magnifiques. Et ça parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie du croyant. Et les couleurs variées, toutes ces couleurs, le fait que ce soit brodé, parle des attributs du caractère de Dieu. Il parlait aussi de la grâce multicolore que Dieu témoigne envers nous et qu'il reproduit dans nos vies. Dans d'autres passages, je ne les ai pas là, mais il est parlé justement que l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est comme une broderie. Et parfois, il y a certains fils qui sont peut-être assez sombres et qui peuvent représenter les épreuves. Et on se dit, mais j'ai pas besoin, moi, de ce fil sombre-là dans ma broderie. Franchement, qu'est-ce que tu fais, Dieu ? Mais nous, on ne voit pas la fin de la broderie. On ne voit pas le beau paysage qui est en train d'être brodé. Mais il faut qu'il y ait une ombre pour que paraisse un motif peut-être plus coloré dans n'importe quelle peinture ou dans n'importe quelle broderie. On va utiliser différentes couleurs, on ne va pas utiliser que du jaune. Imaginez, bon, je sais qu'il y a l'art contemporain où on voit qu'une seule couleur là, mais bon, mais dans la nature, on voit toutes les couleurs qui forment un paysage ou quoi. Et donc cette broderie là, Dieu l'a fait dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc et ces couleurs variées aussi, donc dans nos vies, vont pouvoir révéler les différents attributs de Dieu. Ça peut être, c'est son amour, c'est sa patience, c'est sa sainteté. C'est Dieu, c'est pas qu'une seule facette. Il a vraiment plein d'attributs, quoi. Donc, des vêtements brodés et une chaussure. Alors, moi, j'avais des chaussures, mais là, il n'y a qu'une chaussure. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas... Vous avez d'autres versions, là ? Eh bien, moi, j'avais qu'une chaussure. Et sont... Bon, des chaussures. Alors, après, le mot « dépôt teinte en bleu », il y a différentes variations. Hein. Peau de dauphin, peau de tesson, peau de blaireau, Et en fait, c'était aussi un des tapis donc qu'on mettait sur le sanctuaire. C'était le premier, celui qu'on voyait et qui n'était pas très très beau. Parce que bon, le dauphin ou le blaireau, donc c'est une couleur assez enfin, marron et tout ça, c'est pas très joli. Hein. Enfin, c'est plutôt, enfin, ça a pas vraiment de beauté. Et donc ces chaussures ont été fabriquées à partir de ça, de cet animal. Et ça représente l'humanité de Jésus-Christ. Parce qu'Ésaïe 53, verset 2, il dit « Il était sans éclat et ni apparence. » Donc pareil dans la tente qu'il y avait dans le désert, de loin, on voyait cette tente, elle ne payait pas de mine. Hein. Après, quand vous rentriez, alors c'est là que vous découvriez les splendeurs du ciel. Et sur cette terre, eh ben, nous, on est aussi là, on marche avec nos chaussures de dauphin, nos chaussures de blaireau. c'est le nom hein, de l'animal. On est des petits blaireaux et donc on paye pas de mine, on peut dire. Hein. On vit dans cette vie et puis on n'est peut-être pas reconnu vraiment. On est regardé un peu comme un peu bizarre. Et mais c'est pas grave, ça fait partie du lot. Christ était aussi, lorsqu'il est venu, ben il était sans éclat, ni apparence. Il était c'est cet animal, donc le blaireau, le tesson, hein, c'est un animal solitaire. Et parfois, en tant que croyant, ben, on peut se sentir seul aussi, pas reconnu justement vis-à-vis de ce monde. Et puis parce que il y a une certaine séparation. Nous, on vit d'une certaine manière, Dieu nous sanctifie, nous met à part. Et donc, il y a un décalage avec ce monde obligatoirement. Et on peut se sentir un peu ben, à part. Et c'était un peu la caractéristique de cet animal. Il était solitaire. Et, mais c'était un animal aussi vigilant, qui était sur ses gardes tout le temps. Et donc, on est appelé aussi à ça, à ne pas faire de compromis et à garder la vérité, la vérité de Dieu, quoi. Et puis, Dieu a dit telle chose et ça ne change pas. Ça ne change pas avec l'évolution de la société, tout ça. On reste sur... on protège et on veille jalousement à ce que les droits de Dieu ne soient pas lésés. Et ce qui fait qu'on n'est pas particulièrement reconnu quoi, dans cette marche ici sur Terre. Donc ça, voilà, c'est les chaussures de dauphin ou de blaireau. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc le fin lin, c'est donc un tissu où on ne transpire pas avec. Ça parle de la justice des saints. Nous avons la justice donc de Dieu sur nous. C'est formidable. Dieu nous voit parfaits, sans défaut, à cause de la justice de Christ. Hop, c'est tombé sur nous. Et on peut vraiment s'édifier là-dedans. Et on a été couvert de soie. Alors la soie, ben, c'est une étoffe de luxe, très coûteuse. Et la soie était donc achetée... son pesant en or. Si vous preniez un kilo de soie, c'était un kilo d'or. Donc, il fallait payer le prix. Hein. Et ça parle donc de la valeur de nos vies aux yeux de Dieu. Dieu a payé le prix qu'il fallait pour nous racheter. Et ça a été la vie de son Fils unique. Et ça nous montre aussi la grâce infinie, la grâce incomparable. Parce que franchement, quand on voit la description du début, on se dit on ne paierait pas grand-chose pour cette personne. Ben Dieu, il a payé le prix. Pas à cause de nos mérites, mais vraiment ben, parce que lui hein, voulait rétablir cette relation avec nous. Et ensuite, c'est pas tout, je te parais d'ornements. Donc les ornements sont divers. Les bracelets à tes mains, les bracelets parlent du service, tout ce qui concerne la main, tout ça, ça parle souvent du service. Et le collier au cou. Et le cou parle toujours de la volonté dans la Bible. Hein, il dit peuple, cou raide. Okurai ne voulait pas baisser l'échine. On a ces expressions aussi en français, hein, et qui parlent de la volonté. Et puis quand on garde la tête haute comme ça, ben c'est qu'on veut pas s'humilier et tout ça. Donc le collier, ben ça va parler du fait qu'on se laisse guider par Dieu. C'est la direction divine, le fait d'être guidé par Dieu, et on plie notre volonté à la volonté de Dieu. Ensuite, on a un anneau au nez. Je vois personne avec un anneau au nez aujourd'hui. Parce que certains ont des boucles d'oreilles ou des petits colliers, mais pas d'anneau au nez, je ne comprends pas. Non. Mais l'anneau au nez, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était fiancés. Quand il y avait les fiançailles, on mettait un anneau au nez. Donc, c'est quelque chose d'assez visible. Et donc, ça montre un peu, on ne va pas cacher le fait qu'on appartient à Christ. C'est quelque chose qui va se voir obligatoirement, quoi. Et les boucles d'oreilles, donc ça, vous devez savoir ce que c'est. Non? Bon, ben ça, oui, ça, c'est relatif à l'oreille, bien sûr. Et dans Exode, chapitre 21, lorsqu'un esclave acceptait de servir son maître, même si sa période d'esclave se terminait, c'est-à-dire au bout de 7 ans, il pouvait décider de servir son maître librement. Et à ce moment-là, on perçait son oreille, on mettait une boucle d'oreille, et puis ça voulait dire qu'il appartenait à son maître. Et donc c'est la soumission volontaire. Et puis c'est aussi le fait de vouloir écouter l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et ensuite, pour couronner, justement c'est le terme, couronner le tout, on a une couronne de splendeur. Je ne sais pas ce qu'il y a là, parce que j'avais plusieurs traductions. Couronne magnifique sur ta tête. Eh bien, c'est l'emblème de l'autorité, la couronne, et de la dignité. Donc ça montrait surtout qu'on était de famille royale, on avait un rang, et c'est assez... C'est assez intéressant de voir l'évolution. Comment est-ce que cette personne qui n'avait rien de digne, hein, selon sa naissance, selon même les soins qu'on a pu lui apporter, hein, qui étaient nuls, et puis là, elle est devenue comme une reine, hein, puisqu'elle a cette couronne de splendeur. C'est ce que Dieu a fait de nos vies, quoi. Et le fait donc que la tête, ça parle toujours des pensées. Et en même temps, je pensais un peu aux chaussures de blaireau qu'on a. Et en même temps, on a une couronne. Et ça paraît un peu contradictoire, quoi, parce que ces chaussures, elles ne sont pas vraiment très, très belles. Et en même temps, on a une couronne. Et on marche donc sur cette terre avec ces chaussures-là. Donc, on ne paye pas de mine. Mais en même temps, dans nos pensées, on est des reines. Et vraiment, la bataille, elle se gagne dans nos pensées. Hein, peu importe la situation dans laquelle on peut être, peu importe le travail qu'on peut avoir, on est vraiment des reines. On est des reines, des princesses. Et c'est parce qu'on le sait, quoi. On le sait, c'est établi dans nos pensées, c'est notre identité. Et peu importe notre rôle dans l'Église, on est ces reines, on est ces princesses, parce que tout commence dans nos pensées. C'est notre identité. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, le fait que ce soit mentionné à la fin, je dis, ça couronne un peu le tout, mais parce qu'on a accepté un peu l'anneau, les boucles d'oreilles, le collier, ça parle un peu tout du travail de Dieu. Mais on peut porter cette couronne. C'est un peu un résultat. Enfin, ça a été un peu mon analyse. Mais c'est vrai, je peux être une reine et pas vivre comme une reine. Parce qu'en fait, c'est pas établi dans mes pensées. Je vis pas dans l'identité que Dieu m'a donnée. Et si je n'entends pas la parole de Dieu, je peux pas savoir quelle est l'identité que Dieu m'a donnée. Ou si je l'entends très peu. Je veux dire, parce qu'il y a plein d'autres choses que je vais entendre et qui vont aller contre. contre ce que Dieu dit de moi. Et mon identité sera plutôt ce que le monde va me dire. Et donc, je ne pourrai pas porter vraiment cette couronne. Je l'oublierai, même, je ne saurais même pas que je l'ai. Pourtant, Dieu me la donne, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il me voit. Et donc, dans les versets qui restent, bon, c'est un peu un résumé hein, de tout ce que Dieu nous a donné. « Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. » Donc, c'était des mets exquis, c'était le meilleur, c'était le top. C'était ce qu'il allait trouver donc en Canaan, ce qui avait été promis. Furent ta nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Donc Dieu veut vraiment nous donner le meilleur, et Israël a vécu cette période-là, sous le règne de David, de Salomon. Ils étaient vraiment une représentation de la gloire de Dieu parmi les autres nations. Mais ensuite, après, il y avait aussi le fait de continuer de marcher dans ce que Dieu avait donné. Et ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit « Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Et ça, il faut jamais l'oublier. Je crois qu'Israël l'a oublié. C'est pour ça qu'il y a eu la dégringolade par la suite. Parce que c'est Dieu qui avait donné cet éclat. C'était Dieu qui avait donné chaque appareil, chaque chose. Et dans nos vies, Dieu nous a donné toutes ces choses-là. C'est à nous. Mais en même temps, on peut vivre dedans en dépendance simplement à Dieu, en étant dépendant à Dieu. Parce qu'après, on n'a pas le temps de le lire, mais on voit que, verset 15, « Mais tu t'es confié dans ta beauté. » Donc après, les gens l'ont, enfin, Israël l'a pris pour eux-mêmes, et nous on peut le prendre. Et bien, qu'est-ce qui s'est fait passer? Tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Et après, il est dit même ce qu'Israël a fait avec les vêtements que Dieu lui avait donnés, même les ornements et tout ça. Et donc, on a besoin de garder précieusement ce que Dieu nous a donné. Et parce qu'en même temps, on est encore sur cette terre, et puis il y a vraiment une bataille. Il y a l'ennemi de nos âmes qui veut nous enlever tout ce que Dieu peut nous donner, et ridiculiser en fait l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Donc, il nous faut nous rappeler notre naissance, que en nous, il n'y avait rien d'aimable. Vous ne pouvez pas exiger ou mériter quoi que ce soit de Dieu. Mais Dieu est intervenu envers nous. Et il nous a donné tous ses apparats, tout cet héritage. Et simplement, il nous faut vivre dans cette dépendance à Dieu, quoi, comme notre époux.